dernier hymne national joué ici au Stadium National pour les Jeux Olympiques sera la Marseillaise. En effet, il y a moins d'une demi-heure, Jonker Doriola a remporté la première place du jumping sur lutteur avec 9 points seulement de pénalisation. Il faut rappeler que Jonker Doriola avait déjà remporté le saut d'obstacle en 1952 à Helsinki.
Bienvenue dans Légende cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutroux, journaliste passionné par l'histoire du sport. Cet été, les amoureux d'équitation ont rendez-vous dans les jardins du château de Versailles. Les meilleurs cavaliers et chevaux au monde s'y retrouveront en quête du Graal olympique. Jusqu'à l'ouverture de ces Jeux, Légende cavalière a choisi de nourrir cette flamme en retraçant quelques beaux moments et en mettant en lumière de grands couples qui ont marqué l'histoire olympique. Après Pierre Durand et Japloux, derniers champions olympiques français sacrés en individuel à Séoul en 1988, puis le néo-zélandais Mark Todd et Charisma, couronnés en concours complet en 1984 et 1988, dans ce 37e épisode, Légende cavalière retrace l'histoire du seul double champion olympique individuel de saut d'obstacle, le français Pierre Jonker Doriola, en or en 1952 à Helsinki, puis 12 ans plus tard à Tokyo. Et restez avec nous jusqu'au bout. Guy Jonker Doriola, cavalier international, nous racontera ses souvenirs de son oncle Pierre et Gilles Bertrand de Balanda, champion du monde par équipe en 1982 et 2002, et dont le grand-père, Pierre aussi, fut médaillé d'argent individuel aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, nous parlera de ses rencontres et des anecdotes partagées avec Pierre Jonker Doriola, l'idole de sa jeunesse. Pierre Jonker Doriola est né le 1er février 1920 dans le château familial de Corneilla del Vercol, dans les Pyrénées-Orientales, entre Collioure et Perpignan, tout près de la frontière espagnole. Sa famille, de riches propriétaires terriens, anoblie sous Louis XV, y cultive la vigne depuis 1485. Dans sa jeunesse, le petit Pierre, fils de Joseph, cavalier de haut niveau et petit-fils d'un écuyer du Cadre Noir, est déjà un amoureux du sport. Qu'il soit engagé sur une épreuve d'athlétisme ou dans un match de rugby, ce qu'il veut plus que tout, c'est se surpasser et surtout gagner. Son père, Joseph, plutôt du genre autoritaire, le met très vite en selle sur son premier poney, baptisé Sans Souci. Pierre n'a que 3 ans et se rappellera encore longtemps de ses éraflures sur les jambes à force de frotter les barrières du manège. Parce que oui, à cette époque, on monte en culotte courte. À la fin de la classe de première, Pierre dit stop aux études. À 17 ans, il préfère seconder son père sur la propriété. Il arpente déjà les terrains de concours depuis quelques années. En 1936, à 16 ans, avec Anna Corrette, un pur sang borgne déniché par son père à Tarbes, il franchit pour la première fois une barre hissée à 2 mètres. Une fierté d'autant plus grande qu'il partage ce jour-là la vedette avec un officier du 2e régiment de hussards. La compétition équestre le passionne déjà, mais l'adolescent n'envisage pas encore de faire carrière. À la maison, il dévore la presse sportive, en particulier les revues hippiques. Son père parcourt l'Europe à une époque où les chevaux voyagent en train. Ils embarquaient à 9h du soir et arrivaient à Rome le lendemain midi, se souvenait-il. Arrive le temps des premiers grands concours. Pierre Jonker Doriola est encore inconnu quand il débarque à Bordeaux. Il y croise d'autres jeunes, plus habitués à ce niveau, comme Jean Dorgex par exemple, cavalier auquel il sera souvent opposé par la suite, sur la piste, mais aussi dans les coulisses. Il obtient de premiers résultats probants grâce à sa petite jument Historiette. Ces résultats lui permettent d'être convié à un essai à l'école militaire de Fontainebleau. Il y décroche dans la foulée sa première sélection internationale à Genève en 1946. Il n'y a pas encore d'argent à gagner. Mais peu importe, le plaisir de monter à cheval, de sauter et de gagner suffit aux Catalans. Sans oublier celui de représenter son pays en Coupe des Nations, dont il sera un très grand fidèle. Après avoir été désigné remplaçant aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, Pierre Jonker d'Oriola fait désormais partie des meilleurs, comme ici, au Palais des Sports, en 1950.
Le cadre noir de Saumur présente sa célèbre reprise à la 5e nuit du cheval au Palais des Sports de Paris. L'assistance est de choix, duc et duchesse de Windsor. Le jumping reprend alors ses droits avec Miss Pesmes et la coupe du président de la République où l'Espagnol Goyoaga est aux prises en finale avec le Français Jonker d'Oriola. C'est le Français qui triomphe après un parcours magistral.
Il découvre l'univers olympique en 1952 à Helsinki. Le Catalan monte Ali Baba, un anglo-arabe, pas très grand, mais plein de sang et de volonté. Le couple n'a débuté en concours qu'au mois de mai au CSIO de Rome. Le premier jour, Ali Baba est monté par Bertrand de Breuil. Suivant une intuition, le colonel Cavalier, chef de l'équipe de France, décide de changer de cavalier et de le confier à Jonker d'Oriola, ce que permet alors le règlement. Un cheval peut en effet être monté par plusieurs cavaliers dans le même concours. Après une première épreuve convaincante, le couple termine le CSIO de Rome par une très belle troisième place dans le Grand Prix. Le chef d'équipe a compris qu'il se passait quelque chose. « Ça, c'est un cheval sur lequel tu pourras compter, confie-t-il. Il te convient à la perfection. » Prémonitoire. Aux Jeux Olympiques, la compétition ne se déroule que sur une épreuve avec trois couples par équipe, chaque score étant comptabilisé, comme aujourd'hui d'ailleurs. 3 août 1952, une manche pour déterminer le classement par équipe, puis une autre, plus un éventuel barrage pour le classement individuel. À la reconnaissance, d'Oriola doit forcer le passage pour entrer en piste. Il a choisi une petite porte et le policier posté à cet endroit refuse de le laisser passer. Mais on n'arrête pas comme ça le Perpignanais. Il prend quelques pas de recul et revient, tel le rugbyman qu'il a été, percuter le policier qui recule. La reconnaissance peut débuter. Avec Jean Dorchex sur Arlequin, Bernard Pernaud Dubreuil sur Tourbillon et donc Jonker d'Oriola sur Ali Baba, la France ne termine qu'à la 7e place d'une épreuve remportée par la Grande-Bretagne devant le Chili et les États-Unis. Un seul couple a signé un sans-faute dans la première manche. D'Oriola et Ali Baba se sont fait surprendre à deux reprises, dur. Mais la seconde manche est tout aussi difficile. Trois cavaliers trouvent les solutions. Mais la compétition s'achève sans le moindre double sans-faute. Le meilleur total est de 8 points. Ils sont 5 à avoir cumulé deux fautes, dont le Français. Barrage, avec, face au tricolore, l'Allemand Fritz Tiedermann, le seul sans faute du premier acte, le Chilien Oscar Christie, le Brésilien Eloy de Menezes et l'Anglais Wilfried White. D'Oriola est le premier à partir, motivé comme jamais, sans faute, dans un superbe chrono de 40 secondes. Personne ne fera mieux. De fait, aucun des quatre autres concurrents ne sortira de piste sans pénalité. L'argent revient aux Chiliens, le bronze à l'Allemand. À 32 ans, Pierre Jonker d'Oriola est champion olympique, 40 ans après Jacques Cariou, premier cavalier tricolore sacré en 1912 à Stockholm avec Mignon. Et quelques jours après le titre de son cousin Christian, au fleuret, en escrime. Ce dernier cumulera d'ailleurs 4 médailles d'or, 2 en individuel et 2 par équipe. Sacrée famille. Avec l'argent de Guy Lefranc en complet sur Verdun et le bronze en dressage d'André Joussaume avec Harpagon, la France revient d'Helsinki avec un excellent bilan. Sur Radio France, quelques semaines plus tard, Jonker d'Oriola revient rapidement sur sa victoire à l'occasion de l'ouverture du jumping de Paris au Palais des Sports.
Ça a été dur les Jeux Olympiques.
Oui, c'était assez dur.
Vous avez rencontré là-bas des concurrents que vous n'aviez encore jamais rencontrés.
Ah oui, il y avait des quantités d'équipes, oui. De nouvelles équipes que nous n'avions jamais vues jusque-là.
Votre mérite n'en est que plus grand. Alors, rendez-vous demain soir au jumping, et puis, oh, j'aurais aimé aller vous voir au Mexique quand même, je pourrais pas. C'est déjeuner.
Merci.
Au revoir, monsieur Jean-Pierre Doriola.
Jean-Pierre Doriola est désormais attendu dans chacun des événements auxquels il participe, comme ici au Grand Palais, en 1954.
C'est le Grand Palais qui a abrité à Paris cette année le concours hippique international. Dans le Grand Prix de Paris, Miss Pat Smythe défend avec bonheur les couleurs anglaises avec Prince Hall. Mais c'est le champion français Jean-Pierre Doriola sur roulette qui enlève l'épreuve en battant Miss Pat Smythe et le lieutenant des Almeida. Et en manière d'apothéose, une évocation de la cavalerie française à travers l'histoire.
En 1956, Stockholm, en Suède, accueille les épreuves équestres des JO de Melbourne en raison des contraintes sanitaires qui empêchent alors le déplacement des chevaux en Australie. Le Français prend encore une bonne sixième place individuelle avec Voulette, une petite jument de 1m56, très typée anglo. Le podium accueille trois légendes, l'Allemand Hans-Günther Winkler, également sacré par équipe, devant les deux frères italiens Raimondo et Piero D'Inzeo. Nouvelle participation de Pierre-Jean-Pierre Doriola aux Jeux Olympiques à Rome en 1960. Les premiers Jeux à proposer une épreuve individuelle, puis une épreuve par équipe. Avec éclair au chocolat, Doriola n'est que 18e de la compétition individuelle avec 41,25 points. Une épreuve individuelle disputée sur la sublime place de Sienne et marquée par le doublé des frères D'Inzeo. C'est un peu mieux par équipe sur les deux manches dessinées dans le grand stade olympique cette fois, avec une cinquième place obtenue avec le capitaine Bernard de Fombelle sur Buffalo et le commandant Max Fresson sur Grand Veneur. L'équitation française a raté ses jeux. Pire, la France rentre d'Italie sans la moindre médaille d'or et un bilan famélique de 5 médailles. Une déroute qui déclenchera une révolution dans l'organisation du sport français et sa démocratisation sous l'impulsion du général de Gaulle. 4 ans plus tard, à Tokyo, la France n'est pas loin du même fiasco. Le dernier jour des Jeux se profile et la Marseillaise n'a pas encore retenti une seule fois. Ne reste plus que l'épreuve d'équitation en ce samedi 24 octobre. Mais personne n'y croit vraiment. Jean-Pierre Doriola fait cette fois équipe avec Luther B, un sel français bébrin de 9 ans, fils du pur sang Furioso. Il l'a acquis une bonne année avant Tokyo auprès d'une cavalière d'Aix-en-Provence qui le trouvait trop puissant pour elle. Il l'a échangé avec une petite jument. Les débuts furent un peu délicats, mais peu à peu, le cheval a accordé sa confiance au cavalier. En froid avec la fédération, Jean-Pierre Doriola est sélectionné au dernier moment. Au Japon, la formule est revenue à celle d'Helsinki. Une seule compétition en deux manches et un éventuel barrage. Comme en Finlande, la première manche du français est médiocre. 9 points au compteur, dont une faute sur la rivière, rare pour Luther. Mais, comme en Finlande, les scores sont lourds. Il pointe à la 4e place derrière 3 cavaliers à 8 points. Rien n'est encore perdu. Le midi, il déjeune avec le colonel de Castries, grand cavalier qui a détenu des records en saut en hauteur, franchissant notamment plus de 2,30 m, et en saut en longueur avec 7,60 m en selle sur tenace. Grand cavalier, mais aussi grand militaire, engagé dans la bataille de Dien Bien Phu en ex-Indochine. Joyeux luron aussi, les deux hommes profitent de l'instant et s'offrent du très bon vin. Le moral est là, au beau fixe. Devant 80 000 spectateurs, la seconde manche est un récital, sans faute. Tous les adversaires du français faillissent. Cette fois, il n'y aura pas de barrage. Pierre Jean-Pierre Doriola remporte son 2e titre olympique. Dans son émission Interactualité, France Inter ouvre son journal sur cette sublime médaille d'or.
Les Jeux Olympiques se sont terminés par une victoire française. Le cheval étant la plus noble conquête de la France, c'est Pierre Jean-Pierre Doriola qui nous apporte notre médaille d'or en jumping. Roland Mesmer.
Et bien entendu, nous joignons Jean Reynal qui tout à l'heure nous faisait part de cette bonne nouvelle. Donc à vous Tokyo, à vous Jean Reynal.
Bien ici le Stadium National de Tokyo, oui, le dernier hymne national joué ici au Stadium National pour les Jeux Olympiques sera la Marseillaise. En effet, il y a moins d'une demi-heure, Jonker Doriola a rapporté la première place du jumping sur lutteur avec 9 points seulement de pénalisation devant l'Allemand Hermann Fried, 13 points un quart. Il faut rappeler que Jonker Doriola avait déjà remporté le saut d'obstacle en 1952 à Helsinki. Et bien entendu, nous avons interviewé Jonker Doriola après sa victoire. Jonker Doriola, je vous rappelle, a 44 ans. Il est viticulteur, agriculteur. Il est marié. Il est né à Corneia del Velcol. Voici donc l'enregistrement effectué par notre camarade Yvan Médecin de Radio Monte Carlo.
Jonker Doriola, 12 ans après, après le 5e 1952, nous avons remporté le titre à Tokyo 1964. Je crois que ça vous fait plaisir de passer de même le meilleur après 12 ans de compétition.
Oui. J'ai eu quelques années malheureuses, mais en fait, cette victoire me console de tout.
Comment le concours s'est passé pour vous?
Ben, le concours s'est très bien passé. Ce matin, j'avais un léger retard, mais enfin, la preuve qui n'était pas insurmontable. Et le cheval était patent et il s'est très bien sorti de toutes les difficultés qu'il y avait dans ce parcours et dans ce très mauvais terrain.
Le terrain est assez mauvais, hein?
Très, très lourd. Très, 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 très lourd.
C'est un piège pour beaucoup de cavaliers.
Ah, oui, mais en fait, c'est pareil pour tout le monde, on a remarqué.
Ouais. Quel était l'adversaire que vous craignez le plus au moment où vous avez pris le départ?
Oh, il y en avait beaucoup. Il y avait un Allemand qui était, qui jusqu'à maintenant était très très long puisqu'il n'avait que 12 points. Par contre, déjà, il fallait que je fasse un temps faute, moi, pour gagner. Il fallait, ce temps faute, il le fallait. Je le voulais d'ailleurs entièrement et le cheval a répondu à exactement tout ce que je lui demandais.
Vous n'avez plus aucun risque, là?
Au contraire, j'ai plus de risques parce que sur un parcours comme ça, vous êtes obligé de prendre des risques. Sans risque, vous ne faites rien.
En tout cas, vous apportez une très belle victoire à la France qui attendait avec impatience une médaille d'or. Vous avez conclu devant ces Jeux Olympiques en gagnant cette victoire.
Oui, je sais si j'en suis heureux.
La France, avec Jeannot Lefèvre et Guy Lefranc, s'offre l'argent derrière l'Allemagne et devant l'Italie. Des médailles qui occupent bien évidemment une place de choix dans la rétrospective de l'année.
La seule médaille d'or obtenue par la France à Tokyo, il a fallu attendre la toute dernière minute pour la recevoir devant la grande foule, il est vrai, quelques minutes avant la cérémonie de clôture des Jeux de la 18e Olympiade. 12 ans plus tôt, Pierre Jonker Doriola, en selle sur lutteur B, enlevait magistralement le Grand Prix de saut d'obstacle. Après un premier parcours prudent, il était le seul parmi tous les concurrents à effectuer son second parcours sans la plus petite erreur, un parcours qu'on ne peut s'empêcher d'applaudir, même 3 mois après, tant il est à la fois sûr, souple et brillant. En ce 24 octobre, grâce à un Catalan de 44 ans et un Hongre de 9 ans, le drapeau tricolore montait enfin au plus haut des 3 mâts olympiques, tandis que retentissait la Marseillaise, mais il était temps.
Un documentaire diffusé en 1982 revient sur ce moment.
Pierre Jonker Doriola, celui qu'on n'attendait pas. C'était le dernier jour des Jeux. Désolé, amer, les officiels et les journalistes avaient plié bagages. Rien à faire, nous n'aurions pas une médaille d'or. Alors ce Catalan taciturne va sauver l'honneur. Ouf, enfin un grand moment.
J'en garderai toujours un souvenir extraordinaire. J'avais déjà gagné les Jeux Olympiques en 52, mais enfin, évidemment, c'était formidable aussi pour moi. Mais évidemment, ceux de Tokyo sont quand même plus récents. Par conséquent, j'en ai un souvenir encore plus vivace.
Comment ça s'est passé?
Et puis j'adorais mon cheval, le cheval lutteur avec lequel j'ai gagné.
Comment ça s'est passé?
Bon, ça s'est passé tout simplement. C'est pas la peine d'essayer de compliquer, il faut faire les choses simplement.
Comme quoi, plus on est fort, moins on en parle. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Bravo, tout simplement.
Le désormais double champion olympique devient un héros national. Il fait même la une de Paris Match. Dès la descente de l'avion, il est accueilli comme une star.
Nous sommes actuellement à l'aérodrome de Nice et Jonker Doriola vient d'arriver. N'êtes-vous pas surpris?
Je me demande si tu as ta médaille sur toi.
Non, c'est lutteur qui l'emporte.
N'êtes-vous pas surpris de voir tout ce monde autour de vous, Jonker Doriola?
Oh ben un peu, oui, parce que je ne pensais pas que mon voyage soit suivi aussi près.
Vous savez qu'il y a eu un suspense terrible en France pour votre arrivée. Des journalistes vous ont attendu durant toute la journée d'hier. Vous êtes au courant?
Ah non, mais c'était pas prévu. Il a toujours été prévu, enfin, sur mes projets à moi, que je m'arrêtais à Nice et à Marseille.
Bon, alors vous êtes quand même revenu par le chemin des écoliers.
Ah, tout à fait, oui, nous avons fait plusieurs escales un peu partout et visité de très beaux pays.
Comment s'est passé ce voyage de retour?
Ah, d'une façon formidable, grâce à Air France surtout.
Et vos impressions de Tokyo?
Excellente. Malheureusement, nous n'avons pas eu toujours beau temps, mais l'organisation était parfaite, à tout point de vue.
Alors on vous a réclamé justement cette médaille-là, vous ne l'avez pas...
Mais malheureusement, je ne l'ai pas parce qu'elle est partie autour du cou de Luther.
Ah bon, c'est le cheval qu'il a alors.
C'est le cheval qu'il a.
Comment s'est passée l'épreuve, Doriola?
Mais pour moi, elle s'est bien passée. La première manche a été un petit peu plus difficile à cause de l'état du terrain qui était épouvantable. Il avait plu pendant les journées précédentes l'épreuve et le terrain était terriblement lourd. Et seulement ce jour-là, justement, il faisait beau. Et la deuxième manche qui avait lieu dans l'après-midi, le terrain s'était quand même un peu amélioré, séché.
Et le cheval ?
Le cheval était formidable, ce que je comptais bien d'ailleurs.
Bon, eh bien, Doriola, je vous remercie et je vous laisse aux autres journalistes qui sont très nombreux ici.
Merci beaucoup.
Un peu plus tard, il est reçu à l'hôtel Matignon par le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou.
Jean Renal, tout à l'heure, M. Pompidou a reçu la médaille d'or française des Jeux Olympiques, à savoir Jonquière Doriola.
Oui, et Roland Mesmer est sur place, bien entendu. Jonquière Doriola est présent à l'hôtel Matignon en compagnie des 14 autres médaillés français des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, à vous Roland Mesmer, à vous l'hôtel Matignon.
Jean-Pierre Doriola, une seule question. Je me permettrai, j'ai été le témoin de votre victoire d'Helsinki. On a parlé beaucoup du cheval lutteur, mais on a oublié Ali Baba. Si vous deviez faire un parallèle entre les deux chevaux.
Eh bien, ce sont des chevaux quand même qui sont complètement différents, parce que lutteur est beaucoup plus puissant que ne l'était Ali Baba. Ali Baba, j'ai gagné en prenant tous les risques possibles. Tandis qu'à Tokyo, je n'ai pas eu besoin, car Luther est un cheval très puissant. Et à ce moment-là, tous les deux, nous étions les meilleurs.
Fort caractère, il s'autorise aussi quelques prises de position radicales contre sa fédération. Il déclinera également une invitation du général de Gaulle. Plus tard, son engagement auprès du Front National fera également beaucoup parler. Mais à cette époque, dans la foulée de Tokyo, le catalan se projette déjà vers les Jeux Olympiques de Mexico.
Et si l'on voit plus loin, c'est-à-dire Mexico, pensez-vous que Luther et vous-même seraient présents ?
Oui, évidemment, c'est assez difficile de répondre à cette question dès maintenant, mais enfin, il y a toutes les chances pour pouvoir répondre oui.
Présents pour tous les deux, Luther et vous-même ?
Oui, certainement.
Luther B mourra, hélas, tragiquement quelques années plus tard, attaqué dans son pré par un étalon furieux et jaloux. Le Perpignanais participera une fois encore aux Jeux Olympiques, à Mexico justement, en 1968, en selle sur Naguère, 9 ans, loué par la Fédération. Il fait alors équipe avec Jeannot Lefebvre sur Roquette et Marcel Rosier sur Covadis. Comme son cavalier le craignait, le cheval perd ses moyens et les points de pénalité s'accumulent. Pourtant, le podium par équipe est encore envisageable. Le catalan est hors du coup, mais il doit absolument terminer son parcours pour ne pas éliminer toute l'équipe, à la lutte pour l'or avec le Canada. La seconde manche est un interminable chemin de croix. Il sort de piste avec 29,5 points. Néanmoins, la France s'offre l'argent à 7,25 points des Canadiens. La compétition individuelle ne sera guère meilleure pour le Français. Le cavalier la résume sur France Inter.
En jumping, déception hier, Pierre Jonquière Doriola, champion olympique à Tokyo, ne peut terminer que 17e. Pierre Jonquière Doriola, pouvez-vous analyser votre course ?
Il y a eu un parcours, le premier parcours, qui était très facile, à mon avis, trop facile même, au point de vue construction des obstacles, hauteur, etc. Maintenant, moi j'avais un cheval qui était quand même assez nouveau pour moi. Il y a que 3 mois que je l'ai, c'est-à-dire le cheval est plein de qualités, mais il aurait fallu que je l'ai depuis plus longtemps pour pouvoir espérer faire quelque chose de mieux avec lui.
Pierre Jonquière Doriola passait avant-dernier au deuxième tour. Il peut alors prétendre à la médaille d'argent s'il fait un sans faute.
Deuxième tour, le cheval qui avait remarquablement bien commencé son parcours s'est effondré sur le cinquième obstacle, absolument.
Oui, il était impressionné.
Il a été certainement impressionné parce qu'il avait, c'était très gros, très 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 gros. C'était un obstacle de 1,70 m au carré sur 2 mètres de large. Alors vous vous rendez compte, c'était vraiment un obstacle qui était énorme.
Obstacle infranchissable puisque tous les concurrents l'ont renversé, y compris le champion olympique.
De l'argent collectif pour le saut d'obstacle, donc, et de l'or individuel en concours complet pour Jean-Jacques Guyon avec Pitou. Pour les Jeux Olympiques de Munich en 1972, Jonquière Doriola est encore dans le coup pour une sélection. Habituellement, il concourt avec Tournebride, talentueuse mais limitée. Consciente de la faiblesse de la jument, la fédération lui propose de monter Varin, un cheval d'un bien meilleur niveau. Mais au dernier moment, celui-ci est confié au colonel, devenu général ensuite, Pierre Durand. Attention, rien à voir avec le Pierre Durand de Japloux. Doriola doit donc se replier sur Tournebride. Coup dur.
C'est un problème, non seulement pour moi, mais pour la plupart des cavaliers français, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont de très très bons chevaux français qui ont été vendus à l'étranger. Et il est malheureux que ces chevaux-là ne soient pas restés en France. Je viens de faire un tour en Allemagne, par exemple, pour essayer de trouver des bons chevaux, puisque je n'en trouve pas en France. J'ai vu quelques chevaux qui me plaisaient énormément, Mais ces chevaux-là, je n'ai pas pu les avoir parce que les Allemands les gardent pour eux, les trouvant trop bons pour partir à l'étranger.
Alors comment allez-vous faire ?
Mais j'en sais rien. J'ai assez fait de kilomètres maintenant. J'ai parcouru la Normandie, l'Allemagne, je vous dis. Je suis allé un peu partout sans rien trouver encore. J'espère que dans l'hiver, j'aurai un peu plus de temps pour essayer de trouver autre chose.
Bien, c'est
en tout cas, si je ne trouve rien, eh bien, je serai obligé de m'arrêter puisque on ne peut pas participer à des grosses épreuves si on n'est pas bien monté.
Ah oui, vous envisagez même de ne pas participer à Munich 72 si vous n'avez pas trouvé le bon cheval.
Ah non, pourquoi participer avec un cheval qui ne vous convient pas ?
Il déclinera finalement sa sélection. Ce refus marque la fin de ses épopées olympiques. Pierre Jonquière d'Oriola, c'est bien sûr 5 participations aux Jeux Olympiques, avec 2 titres individuels et 2 médailles d'argent par équipe. Sa carrière fut également marquée par les championnats du monde. Médaille d'argent à Madrid en 1954 avec Harlequin D, 3e à Paris en 1953 avec Ali Baba. On écoute un extrait du journal télévisé de l'ORTF à cette occasion.
La fête mondiale du cheval s'est terminée à Paris par une véritable apothéose. Les cavaliers de l'escorte de Sa Majesté le Roi des Belges, précédant la garde de Barcelone, les carabiniers d'Italie, ainsi que les Spahis, la garde noire du Sultan et la garde républicaine, ont présenté un carrousel qui a enchanté le prince Bernard des Pays-Bas. Et ce fut la finale du championnat du monde avec le lieutenant italien D'Inzeo. L'allemand M. Tiedemann sur son cheval diamant. M. Jonquière d'Oriola, champion olympique sur Ali Baba. Et l'espagnol M. Goyoaga qui enleva le titre de champion du monde avec 2 fautes seulement sur les 4 chevaux montés. Et devant 30 000 personnes, M. Francisco Goyoaga reçut la coupe du premier championnat du monde du cheval.
Le catalan terminera également 4e à Aix-la-Chapelle en 1955 avec Voulette. Et puis, bien sûr, il y a cet or mondial décroché en 1966 à Buenos Aires, en Argentine, avec Pomom, jument des haras nationaux, demi-sœur de Luther B, fille du pur sang irlandais Furioso. Il remporte le titre au terme d'une finale tournante avec l'espagnol José Alvarez de Bohorques sur Cuisas, l'italien Raimondo D'Inzeo sur Beaujac et le brésilien Nelson Pessoa sur Huipil.
D'Oriola, vous êtes dans une forme splendide à 44 ans, ça se voit. Donc, si vous le permettez...
46.
46, parfait. Donc, je ne vous demanderai pas de vos nouvelles, mais si vous me permettez, je m'enquérerai d'abord de la santé de Luther B d'une part et de Pomone de l'autre.
Bien, Luther B a eu une déchirure musculaire à l'époque, il y a quelques temps. C'est pour ça que je n'ai pas pu l'amener à
Buenos Aires. Mmh.
Mais il a été très bien remplacé
par Pomone.
Par sa sœur, par Pomone qui est sa sœur.
Vous aviez des craintes au départ sur Pomone ?
Non, non, au début elle a été assez difficile, mais enfin elle est venue assez rapidement et maintenant c'est une jument qui va être sans aucun doute sensationnelle.
Oui, ça, surtout montée par vous. Dites-moi, nous avons suivi bien entendu vos exploits dans les journaux, est-ce qu'ils ont dit exactement ce qui s'était passé ? Vous n'avez pas eu de difficultés particulières ?
Non, j'ai jamais eu une difficulté pendant toute la durée du championnat, puisqu'avec Pomone, je n'ai pas touché une seule barre pendant toute la durée du concours.
Avec les autres non plus, je crois, d'ailleurs.
Ben, en finale, avec quelques-uns, oui, mais enfin, oui. Pas des fautes sérieuses, ni nombreuses, non.
Vos concurrents sur Pomone ont été heureux de la montée ?
Oui, mais ils étaient très surpris.
Oui ?
Parce que la jument est quand même très, très, très sensible et il était quelquefois difficile de la monter en combinaison.
Le Français compte aussi une médaille d'argent européenne en 1959 à Paris avec Virtuoso. 4 titres de champion de France en 1954, 1956, 1958 et 1959 et totalise près de 500 victoires en 25 ans de carrière. Il mettra un terme à cette carrière à la fin des années 70. Pierre Jonquière d'Oriola n'a jamais été un théoricien de l'équitation. Il montait à l'instinct. Ses priorités, la bonne condition physique du cheval et l'association du cavalier et de son cheval. Pour obtenir la première, ses chevaux vivaient à l'extérieur pour s'habituer à sauter des fossés, des banquettes et ainsi trouver leur équilibre. Il résumait la seconde de la façon suivante, accompagner le cheval dans son mouvement en avant. Et dans accompagner, il y a compagnon, ajoutait-il. D'Oriola était d'ailleurs connu pour son style aux rênes courtes et son buste porté vers l'avant. Pas de séance de saut non plus le matin d'un concours, une petite détente et en piste. Dans une longue interview accordée à Xavier Librecht de L'Éperon en 2000, il déclarait « Je crois que le sport doit être pratiqué dans la gaieté, l'allégresse. C'était ça mon secret. Quand j'étais content, quand j'étais bien, j'étais sûr de bien monter. Homme de terroir, viscéralement attaché à ses terres, Jonquière d'Oriola était revenu dans son village natal de Corneilla del Vercol, sur le domaine familial où il avait à cœur de cultiver ses vignes, auprès de sa seconde épouse, Renate. Sur la grille d'entrée de la propriété, il avait fait forger les anneaux olympiques. Il y décédera en 2011, à l'âge de 91 ans. Il est désormais temps de retrouver nos témoins. Première rencontre, celle de Guy Jonquière d'Oriola, neveu du grand champion. Monsieur d'Oriola, merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps pour parler de vos souvenirs, évidemment, puisque vous êtes né en 1963. Quels souvenirs vous avez de votre oncle, justement ?
J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de pouvoir monter un petit peu avec lui, à Corneilla, justement. Le mercredi ou les week-ends, on avait sauté sur son terrain. Et le souvenir que j'ai, j'étais très impressionné par le cavalier qu'il était, par son palmarès. Ce que je peux dire, c'est que j'ai le souvenir d'une équitation très naturelle, c'est-à-dire dans le travail de tous les jours avec ses chevaux. C'était beaucoup de balades dans les vignes, beaucoup de conditions dans les prés. Et voilà, il avait un grand terrain en herbe, un magnifique terrain en herbe, à côté du village, et où on allait s'entraîner de temps en temps.
Oui, parce que dans les archives, quand on fouille un petit peu, il mettait ça en avant, le côté... Pour lui, la chose essentielle, c'était la condition physique de ses chevaux. C'est ce que vous aviez noté aussi.
Oui, c'était... Ce qui était amusant, quand il me disait, bon, demain, on saute pas, on va travailler sur le plat, ça consistait en aller dans les prés en bas de chez lui, et on faisait un grand canter dans les prés, voilà, au botte à botte, et j'ai ce souvenir-là. Et pas du tout de... C'était très, très naturel, hein. Il utilisait très peu d'embouchures compliquées, c'était souvent... Il montait en filet simple. J'ai le souvenir, d'un matériel très, très simple, des selles très plates. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que c'était un cavalier très moderne dans sa quand je joue avec du recul maintenant. Quand je vois monter les grands cavaliers aujourd'hui comme René Kerman ou Epaillard, par exemple, c'était assez dans ce style-là.
C'est quelqu'un qui vous parlait de ses exploits ? Il y avait des dîners de famille où on racontait les exploits ?
Non, il était très, très discret par rapport à tout ce qu'il avait fait, il était très discret.
Vous faites des concours à l'étranger et l'aura, le nom, il est encore très important ?
Oui. Mon métier de marchand de chevaux, je suis allé beaucoup en Amérique du Sud et il avait beaucoup, beaucoup d'amis et de relations là-bas.
Quand on s'appelle Jonquière d'Oriola, on est obligé de faire de l'équitation ?
Non, tout le monde n'en fait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une famille où beaucoup, beaucoup d'entre nous montons. Mon père aussi faisait du concours. Ils étaient plusieurs cousins à monter en concours. Et on était voisins aussi des Bertrand Balanda. Nos familles sont très proches. Et j'ai le souvenir d'ailleurs une fois que Pierrot avait organisé un stage avec Gilles, au moment où Gilles montait galouber et avait été champion du monde. Et je me souviens, gamin, avoir fait ce stage. J'étais très impressionné par ça.
Oui, ça faisait un peu du palmarès sur la piste, de l'ancien et du futur, en quelque sorte, avec Gilles.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait des sacrés cavaliers chez les Catalans.
C'est difficile de se projeter aujourd'hui, mais quand vous dites très moderne, c'est avec des chevaux d'aujourd'hui, ça serait efficace encore ?
Ah, sûr. Oui. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être ce qui a beaucoup changé, c'est les parcours, c'est un peu complètement différent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'indoor, Je me souviens, il commentait ça beaucoup, qu'il regrettait que les grands terrains disparaissent, que la spécificité de chaque concours disparaisse. Il se plaignait de ça souvent. Que les concours devenaient tous les mêmes, que c'était beaucoup de concours de bars et que ça perdait beaucoup. Le fait qu'il n'y ait plus d'obstacles naturels et tout ça, il regrettait beaucoup ça.
Merci beaucoup pour ce petit retour en arrière, un petit peu lointain, mais voilà, retour en enfance pour vous en tout cas.
Ben, merci.
Guy Jonquière d'Oriola a évoqué Gilles Bertrand de Balanda. Lui aussi se souvient de ces moments. Gilles Bertrand de Balanda, merci d'être avec nous, de nous consacrer un petit peu de temps pour évoquer votre jeunesse, Gilles, puisqu'on va parler de Pierre Jonquière d'Oriola. Rien que ce nom, ça vous évoque quoi ?
Pierre Jonquière d'Oriola, ça m'évoque... Alors, cette initiale, c'est P-J-O. Donc, ça m'évoque premier aux Jeux Olympiques.
Pas mal, bien trouvé.
Non, mais c'est vrai en plus, parce qu'il a quand même gagné deux fois les Jeux Olympiques en individuel, ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Ça m'évoque surtout toute ma jeunesse quand même, parce que c'était notre idole, et moi je débutais, j'ai des anecdotes quand même pas mal avec lui, et c'est un peu nostalgique tout ça, mais voilà, c'est quand même une époque... ma jeunesse, voilà.
Vous étiez voisin, parce que vous avez un autre point commun au-delà de la grande carrière de cavalier. Vous êtes catalan.
Ouais, moi je suis d'origine catalane. Mmh. Mais j'habitais le sud-ouest, on habitait Béziers, et lui la Catalogne, ce qui est pas loin. On y allait presque, pas tous les week-ends, mais presque. On allait chez lui, j'ai passé des séjours entiers chez lui, des vacances. On dirait la famille d'Oriola et la famille d'Avambarda. On n'est pas cousins, mais on est presque, quoi. Mon grand-père et le père de Pierre Jonquière d'Oriola, ouais, c'est la même famille et tout ça. Moi, il me parlait tout le temps de mon grand-père, hein, tout le temps. On était très, 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 très liés, très proches, très proches.
Vous vous souvenez de vos rencontres, justement, avec lui
Oui.
Il avait déjà percé.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai débuté... j'ai fait des Coupes des Nations avec lui et j'ai fait un championnat d'Europe avec lui, à Ixted. Mais je me souviens de plein de choses, oui. Vous voulez une anecdote ?
Ah bah oui, j'en suis friand, Gilles, allez-y.
quand il a été à Tokyo, c'était un peu compliqué avec la fédération. Il a toujours eu des petits trucs comme ça. Il était un peu avec la fédération et tout. Et la fédération a hésité beaucoup à l'envoyer. Finalement, il y a été et ils sont partis à trois. C'était en 64, donc j'avais 14 ans. Et on était dans les juniors avec un copain, mon meilleur copain à l'époque. C'était notre idole, quoi. Et un jour, dans la voiture, mon père conduisait, on allait dans un concours junior. Et avec mon copain qui s'appelait Louis Charles, on dit, on voit bien sûr Pierrot, il va y aller au jeu. Et puis, il va avoir une médaille, c'est sûr, il va avoir une médaille. Et puis, on a décidé que s'il avait une médaille... On irait à Lourdes à cheval depuis Toulouse, depuis Saint-Félix de Lauragais. On a décidé ça, comme deux jeunes, un peu jeunes chiens, comme ça. Alors on ira à cheval à Lourdes s'il a une médaille. Bon, mon père lui a dit à Pierrot avant de partir, il a dit écoute, les enfants Gilles et Louis Charles ont fait un vœu, si tu as une médaille, ils iront à Lourdes à cheval. Et lui il a répondu. Eh ben c'est incroyable, il avait les larmes aux yeux et tout, il a dit, mais c'est incroyable, si je suis médaille d'or, je vais avec eux. Et donc, on est allé à Lourdes à cheval.
Ah, belle histoire, effectivement. Ouais. Le voyage, ça a duré longtemps ?
Deux jours, trois jours, parce qu'on est parti de... c'était 200 bornes, on est parti de Saint-Félix de Lauragais, pour inviter mon copain, on a pris trois chevaux. On est allé en octobre l'année d'après, pour s'organiser et tout. Mais on est parti tous les trois, avec Pierre Jonquière d'Oriola et tout ça. Donc ça, c'est une anecdote, quand même.
Ah bah oui, une sacrée anecdote, effectivement. Il était dans la transmission, il était dans le partage ?
Alors, sa manière. Pourquoi je dis à sa manière ? Parce que des gens comme Nelson Pessoa m'ont fait travailler sur le plat, et tatati, tatata, puis comme s'il est comme ça. Lui, c'était plus dans l'instinct, dans le moral, comme ça. Oui, vas-y, c'est pas... Ça va aller, c'est bien... galop, monte, oui, des conseils, bien sûr, mais pas tant que... Moi, je me rappelle avoir fait des stages chez lui, mais lui, il regardait à peine le stage et tout ça. Pour lui, il transmettait que c'était pas compliqué, quoi. C'était pas très difficile. T'as qu'à galoper un peu, monte et tu verras bien. Voilà, c'était pas très dans la technique et tout ça, d'ailleurs... pas complètement tort, mais...
C'était pas un théoricien, quoi, de l'équitation, quoi.
Non, puis, il n'avait pas d'élèves, il ne donnait pas de stage, d'ailleurs, ça se faisait moins à l'époque. Hein, alors qu'un gars comme Nelson Pessoa, Complètement. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'étais jeune et j'ai fait beaucoup de concours. Et lui, il m'a prêté des chevaux. Je me rappelle un concours en Italie où c'était la première fois que je prenais l'avion de ma vie. On est parti faire un concours, faire un derby. Il m'a prêté un cheval à lui. J'avais 16 ans ou 17 ans, quoi. Donc,
Je crois que vous vous êtes croisé encore plus tard, même quand vous aviez galoubé, Gilles. Vous croisiez régulièrement avec Pierre Jonquaire d'Oriola, toujours.
Oui, encore, bien entendu. Oui, bien sûr. Et puis après, il était à Rérès quand on a gagné les championnats du monde aussi. Il était là. J'avais gagné un championnat de France junior. Il atterrissait de Buenos Aires où il avait gagné les championnats du monde en 66. Et c'est lui qui m'a remis l'écharpe de champion de France. Quand j'ai gagné le championnat de France à Galoubet, c'est lui aussi qui m'avait remis l'écharpe de champion de France.
Vous m'avez évoqué tout à l'heure le souvenir des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous vous souvenez comment vous les aviez vécus? Parce que il n'y avait pas les télés, l'Internet, etc.
Il n'y avait rien à la télévision. Moi, je ne sais pas. Moi, je sors de l'école et j'entends Jean-Pierre d'Oriola gagner les Jeux Olympiques. Voilà.
Quel était son rapport avec les chevaux?
Je me rappelle quelqu'un qui disait « Si j'étais cheval, j'aimerais être cheval chez Pierrot d'Oriola ». Il est monté que par… il travaillait le moral et le physique, que des grandes balades, que il avait un grand terrain en herbe, il galopait, il faisait pas de… Alors on disait « Il travaille pas sur le plat et tout », ce qui était complètement faux, parce qu'il avait sa manière à lui de travailler et les chevaux étaient… incroyable. Il avait une connexion et une complicité avec les chevaux absolument incroyable. C'était le Marco Senin de l'époque.
C'est une source d'inspiration, forcément, quand on est jeune cavalier comme vous à cette époque.
Ah oui. Vraiment. Moi, je sais que si j'ai fait les championnats et que je me suis beaucoup inspiré de lui. Personnellement, j'ai toujours été attiré par les championnats et j'adorais les championnats. Parce que, en fait, à l'époque, c'était quand même aussi une autre époque. On ne peut pas comparer les époques, hein, quand même. Mais un gars comme d'Oriola, il ne gagnait pas tant d'épreuves que ça. Il gagnait les Grands Prix et les championnats. Et lui, il gagnait des épreuves, évidemment qu'il a gagné des épreuves. Mais il allait dans un concours, il allait à Rome, c'était pour gagner le Grand Prix de Rome. Mais il y avait beaucoup moins d'épreuves qu'aujourd'hui, c'était pas du tout la même chose, la Coupe du Monde n'existait pas, il y avait des Gilles d'Or, évidemment, il y avait Genève, il y avait des concours comme ça, et il a gagné tous les Grands Prix du Monde, peut-être qu'il n'a pas gagné avec sa chapelle. C'était vraiment un athlète, un sportif, un cavalier de championnat.
C'était le Steve Garda qui s'est ciblé ses objectifs, quoi. Voilà.
Exactement. C'est très bonne comparaison, parce qu'il est, voilà, il amenait ses chevaux pour aller il sera prêt pour le championnat, voilà. Ou ça, c'est pas un cheval de championnat. Ça, c'est un cheval de championnat. D'ailleurs, il les a tous gagnés, sauf les championnats d'Europe.
Eh ben, merci beaucoup, Gilles, pour ce petit retour dans votre jeunesse.
Merci, Pascal. Merci. À bientôt.
À bientôt. C'était un podcast de Grand Prix. Un très, très grand merci à Guy Jonquaire d'Oriola et à Gilles Bertrand de Balanda. Merci à Sébastien Roulier pour son précieux soutien éditorial. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende cavalière.